Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Il est 18h, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord du pédalo. Au programme de ce soir, nous recevons Lux Montes à nos micros. Cette chanteuse a participé au programme du Shabada et du CNDC, Badam, un dispositif qui permet à des artistes femmes de mener une réflexion personnelle et collective sur des codes sociaux imposés et ou subis dans les milieux artistiques. En deuxième partie d'émission, nous entendrons la chronique de Thomas sur les Canadairs et enfin un micro-trottoir d'Océane sur la peur. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo met les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Tout de suite, on vous laisse avec Lux Montes, interrogé par Océane sur les ondes de Radio Campus Angers.
Ce week-end s'est tenu le premier rassemblement du dispositif Badam, autrement dit booster d'artistes, danseuses et musiciennes. Ce projet est mené par le Centre National de Danse Contemporaine et le Shabada jusqu'à janvier 2024. Il a rassemblé près d'une dizaine d'artistes. Et l'une d'elles nous fait l'honneur d'être présente à notre micro, c'est Lucille Beauvais, alias Lux Montes. Bonjour Lucille.
Bonjour Océane.
Tu fais partie du dispositif Badam, il a pour objectif de soutenir les artistes femmes qui portent un projet scénique autour de la danse ou de la musique, mais aussi de défendre leur position dans le domaine artistique. Récemment, tu viens de sortir en avril un nouvel album, La Traversée. Dedans, tu y racontes ta traversée lors d'une rupture amoureuse. Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
Je pense qu'en fait, la première matière, souvent des artistes, c'est leur propre expérience, leur propre vie, et comment elles peuvent transcender en fait ce qui se passe dans la réalité pour les regarder sous un prisme un peu plus créatif, artistique, et leur donner une dimension plus universelle, en fait, je pense. Donc, c'était pas spécifiquement sur un événement particulier, mais je dirais que c'est plutôt comment, à un moment, on aborde le deuil d'un sentiment, d'une relation ou simplement d'une habitude dans sa vie, comment on se transforme au travers des expériences, d'où le titre La Traversée.
Et est-ce que c'est un projet que tu as longuement réfléchi ou l'inspiration t'est venue assez rapidement ?
C'est un projet, à la différence des autres productions, parce que j'ai sorti un EP, un album précédemment, avant celui-ci, où il y avait vraiment quelque chose de très compact, qui s'est fait un petit peu dans un temps assez resserré, autour du piano-voix. Vraiment, il y a une sorte d'unité dans même les instruments qui sont sollicités dans cet album. Et donc voilà, tout a été un petit peu, tout s'est relié de manière cohérente et sur un temps assez ramassé, en fait, pour cet album.
Du coup, j'ai écouté ton album et je l'ai trouvé très poétique et léger. Mais en même temps, tu es assez intime dans les textes. Par exemple, dans la chanson « Tu Alma », tu fais référence au rapport au corps. Est-ce que tu veux montrer qu'une relation amoureuse va au-delà d'une simple relation sexuelle, ou est-ce que tu t'es sentie légitime de parler de ce sujet en tant que femme ? Enfin, peut-être que je me trompe, mais...
Il y avait vraiment cette... je pense que tu fais référence à cette phrase « Je veux te regarder, je veux te dénuder, je veux te garder ». C'est vraiment cette idée de qu'est-ce qu'on partage en fait dans une relation humaine et amoureuse. Il y a évidemment toute la partie sensuelle qui est liée au corps, et il y a toujours ce fantasme d'aller toucher à ce qui fait le centre de l'être, quoi, son âme, et de pouvoir fusionner avec elle. Et je pense que c'est parfois cet idéal qui fait qu'on souffre aussi quand ça s'arrête, parce que l'idée, c'est vraiment de se construire comme une entité un peu autonome et voilà, qui s'enrichit de la présence de l'autre, mais en tout cas qui n'en fait pas un binôme absolu, quoi.
Ok, et tu as voulu montrer le point de vue des femmes un peu à travers ça.
Alors c'est intéressant, oui, j'avais jamais vu ça sous cet angle, mais il y a peut-être le fait d'être aussi active dans la relation, de décider, de vouloir, de voir, de toucher, de garder, et donc d'être dans cette posture de non de passivité, mais d'être sujet dans la relation, oui.
Dans ton clip Vision, on peut voir deux danseurs. Donc la chanson commence par Parmi les corps en mouvement, puis Sillonner nos mains, rassemblant dans nos chairs animaux et genoux. Je me suis dit que les paroles décrivaient la chorégraphie. Est-ce que c'est ça ? Enfin, est-ce que le texte vient de la chorégraphie ou l'inverse ?
Pas du tout. Figure-toi, c'est vraiment intéressant que tu dis ça parce qu'en fait, au départ, les deux danseuses, donc qui sont Béatrice de Brabant et Natalia Vallebona qui ont dansé sur ce clip-là, au départ dansaient pour une autre chanson qui est Toi Alma. Et au moment du montage, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de matière et qu'il y a des choses qui ne collaient pas. On a mis ces images, leur danse, leur mouvement sur le titre Vision. Et là, il y a eu comme une sorte de révélation. Et c'est plutôt, en fait, leur danse qui est venue en écho du texte. Donc c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Okay.
Et dans ton album, on retrouve aussi un single que tu as sorti l'année dernière pour la Journée internationale des droits des femmes. C'est une reprise de la chanson Où sont les femmes de Patrick Juvet. Pourquoi est-ce que tu as voulu reprendre cette chanson en particulier ? Parce que c'est une chanson de 1977. On y décrit la vision cliché peut-être de ce qu'on disait être la femme indépendante à l'époque.
Oui, bah en fait, je crois que c'est vraiment pour ça. Il n'y avait pas d'intention particulièrement politique à la base. En fait, c'était que j'ai commencé à travailler sur la mélodie au piano, à la réécrire. Et je me suis dit, tiens, c'est chouette. Et en fait, j'ai commencé à chanter les paroles. Et là, je me suis dit, dans ma propre bouche, moi, en tant que femme, il y avait des choses qui rentraient vraiment en collision, en fait. Dans la bouche d'un homme, il y a vraiment la volonté une sorte de cliché romantique, une image romantique de la femme. Un petit peu, on va dire, oui. Ancienne, quoi, très traditionnelle. Et en fait, quand on l'incarne en tant que femme, ici, on se rend vraiment compte de choses déjà qui ont évolué, de points de vue qui ont évolué. Voilà, c'est ça. Et parfois des phrases qui peuvent être un peu choquantes quand on le dit en tant que femme, faire un enfant par hasard, par exemple, ce genre de choses. Voilà. C'est plutôt ouvrir une réflexion sur les clichés qu'on peut mettre sur les gens, hein, que ce soit autant sur les femmes que sur les hommes.
Si on revient au projet Badam, donc il s'est terminé hier, c'était tout le week-end. Peux-tu revenir sur cette expérience, le déroulé, tes impressions?
C'était un week-end très intense, donc qui a eu lieu au CNDC ici à Angers, et on s'est retrouvés. Donc c'est moitié danseuse, moitié musicienne. Et ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est ce qui fait vraiment l'originalité de ce programme, c'est qu'on se rencontre entre différentes disciplines et de porteuses de projets. Donc en fait, c'est vraiment ce truc qui nous rassemble, c'est qu'on est toutes, on porte vraiment sur nos épaules, dans nos bras, dans nos têtes, dans nos passions, un projet qu'on essaye de mettre en place dans des environnements professionnels. Du coup, assez différents, hein, qui sont l'économie de la danse, l'économie de la musique, avec des passerelles parfois qu'on constate, et des différences. Et voilà, c'est intéressant aussi de sortir parfois d'un champ disciplinaire pour s'inspirer des manières de faire en fait des autres. Et c'est en ça que c'était génial. Et aussi sentir qu'il y a vraiment une bienveillance, qu'on est toutes dans le même bateau à lutter contre un manque de visibilité qui peut être différent en fonction des deux secteurs. Mais cette fois, de continuer à avancer, de faire changer les choses sur le plan artistique. Aussi politique en fait.
Du coup, pourquoi tu as voulu y participer ? C'est un dispositif qui est important pour toi ?
En fait, ça s'inscrit vraiment, moi, dans mon parcours artistique, que ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que je pense que l'engagement en tant que femme dans la musique, elle est de fait présente à partir du moment où on est sur scène en tant que femme. On est sur des proportions quand même qui sont entre 20-80, ça dépasse jamais 30%, enfin voilà. Donc en fait, d'office, quand on est sur scène en tant que femme, c'est que si on est là, c'est qu'on a fourni l'effort et l'énergie pour le faire, en fait. Et c'est déjà une posture politique, qu'on le veuille ou pas. Après, comment on l'incarne, comment on entre dans une lutte, ça c'est encore un autre débat. Et pour moi, c'est quelque chose qui est dans mon parcours en parallèle, et c'est des questions qui m'intéressent et j'ai envie de les questionner. Et c'est aussi une manière d'éveiller des consciences peut-être cachées d'une certaine manière sans le vouloir, et juste de dire voilà, c'est un fait, ça existe, témoigner de ça, voilà.
Par rapport à ce questionnement, c'est par rapport à l'égalité entre les genres dans le secteur culturel. Quelles sont les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans le milieu musical ou artistique en général ?
En fait, il y a plein de raisons qui sont systémiques et qui nous dépassent et qu'il faut justement aller identifier. Et ça, c'est difficile. Ça peut commencer juste de la petite enfance, de proposer des instruments genrés aux filles, voilà, peut-être des instruments qu'on va estimer plus légers, plus intimistes, le piano, plutôt qu'une guitare électrique. Donc, il y a quand même tout un fil qui se fait. Et parfois aussi, de faire la musique dans des lieux qui sont peut-être moins sécurisés pour une femme, d'aller répéter dans un studio de répète tard, de revenir le soir, d'aller à un concert, d'aller découvrir des projets et comment on revient après chez soi tard. Voilà, c'est aussi tout un contexte, un environnement qui dépasse la musique et qui parfois sont des freins pour les femmes en fait d'aller plus loin dans un projet, se donner la légitimité tout simplement de le faire. Voilà, les hommes apparemment ont plus la possibilité de sortir des règles, des disciplines, des consignes qu'on leur donne. Les femmes sont plus appliquées. Voilà, c'est des choses en fait qui sont à la fois très concrètes et à la fois qui sont vraiment intégrées inconsciemment dans nos systèmes de pensée. Et c'est tout ça qu'il faut déconstruire et après donner plus d'opportunités aux femmes pour qu'elles soient aussi compétente et performante que les hommes, parce que c'est le problème qu'on rencontre. C'est que parfois, à âge semblable, les femmes n'ont pas eu le même nombre d'opportunités de créer leur projet, de se professionnaliser que les hommes, et on arrive parfois à un décalage dans le niveau de performance, et ce qui peut donner une mauvaise idée, c'est-à-dire que les femmes sont moins efficientes que les hommes, alors que non, c'est quelle opportunité on leur a donné pour constituer alors vraiment un parcours artistique leur permettre d'être professionnel.
Est-ce que toi, il y a eu un moment où tu t'es dit que ça aurait été plus simple en étant un homme, enfin, t'as un exemple en particulier
En fait, c'est ce qui est difficile, c'est que parfois dans les relations humaines, il y a des choses qui sont de l'ordre du non-dit, et de l'implicite. Et dans, par exemple, le relationnel sur une scène, quand on est souvent avec des équipes masculine au niveau de la technique, par exemple, il y a toujours ce truc de se dire « Ok, il faut que je me blinde là, il faut que je montre que je connais mon sujet, que je sais là, techniquement, j'ai mon vocabulaire. » En fait, ça implique d'être beaucoup plus précise sur tout ce qui constitue la technique, l'environnement, le langage artistique, pour venir en disant « Ok, j'ai les épaules, je peux répondre, on ne va pas me mettre en difficulté sur ma légitimité à faire les choses. » Donc oui, souvent, moi, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, si j'arrive avec un projet, le même projet, mais en étant un homme, est-ce que j'aurais plus d'opportunités? Mais ça, je ne peux pas le comparer dans mon expérience subjective, en fait. Je peux qu'émettre des hypothèses, en fait, là-dessus.
Sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as remarqué aussi cette différence de traitement envers les artistes femmes? Tu as dû entendre parler de la déclaration de Oshi qui s'est faite cyberharceler. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as été témoin, victime?
Victime, non, mais après, encore une fois, c'est comment on fait les choses sans parfois se demander pourquoi, c'est-à-dire quelle image on veut montrer de soi aussi, l'image de la femme, la représentation de la femme dans les arts, dans la musique. Et nous, musiciennes étant interprètes, étant aussi sur scène, c'est comment on montre notre corps, quoi. Qu'est-ce qu'on dévoile de notre féminité? Comment ça va être perçu aussi en face? Est-ce que c'est trop sexualisé? Est-ce que c'est pas assez? Et dans tous les cas, il y aura un jugement, en fait, sur la représentation qu'on donne à voir de notre corps, de notre présence. Évidemment, il y a une atteinte assez forte au corps de la femme, notamment des réflexions sur grossophobie qui sont de l'ordre de la grossophobie qu'on voit beaucoup tourner aujourd'hui. Et je me dis, il y a encore de la matière, il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'on soit plus considéré comme des objets, mais vraiment comme des sujets. On peut être tel qu'on est et porter. Je veux dire, ça n'atteint pas notre valeur intrinsèque, quoi. Et donc, il y a encore un gros travail à faire de déconstruction sur toutes ces questions, oui.
Est-ce que l'accompagnement de Badam est un groupe de parole et d'échange ou est-ce que c'est surtout un moyen de développer la sororité et l'émergence d'artistes féminines?
Alors en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a rencontré des intervenantes qui étaient des artistes ou des gérantes de compagnies et donc on était plus sur du partage d'expériences de personnes qui seraient peut-être des mentors, des exemples, des modèles. Ici, pour l'instant, vraiment un temps d'échange. Mais ce temps d'échange, il s'est vraiment fait de manière parallèle, en fait. Voilà, un peu au moment où on va boire un verre après le dispositif ou dans le logement qu'on partageait. Et voilà, je pense que le second week-end qui aura lieu en octobre ici sera plus axé sur l'artistique plus que l'environnement professionnel. Et je pense qu'on rentrera un petit peu plus en profondeur sur ce qui fait le projet, ce que défend chacune d'entre nous sur scène.
Est-ce qu'il y a des solutions concrètes qui sont apportées pour l'affirmation artistique des femmes ou pas forcément?
Alors, je crois qu'il y a deux niveaux d'intervention. Il y a le terrain. Donc, nous, en tant que vraiment femmes qui mettons en place des choses, c'est-à-dire des fédérations, on se rassemble, on crée des collectifs. Ça, c'est quelque chose qui est très commun, en fait, entre les artistes féminines, qu'on constate moins chez les hommes. Donc, ça, c'est vraiment le terrain qui agit, qui dit, moi, par exemple, en tant que femme, quand je suis en interview, je témoigne de mon expérience. Donc, c'est des manières aussi de faire avancer les choses. Et après, bah, il y a les pouvoirs publics qui mettent en place ce genre de dispositif, en tout cas qui aident financièrement pour qu'il soit mis en place. Et voilà, c'est à chacun de trouver la responsabilité dans son travail en tant que programmateur, programmatrice, par exemple, d'un lieu de concert, se dire aujourd'hui on ne peut plus ignorer cette question. Donc comment on la prend à bras le corps? Qu'est-ce qu'on met en place, nous, aujourd'hui, dans l'établissement de notre programmation pour favoriser une meilleure inclusivité, une meilleure représentativité des gens et des autres personnes qui sont aussi, du coup, discriminées, hein, les personnes racisées ou porteuses de handicap, enfin voilà. Et voilà, donc Jacques, c'est ces deux mouvements, en fait, tout doucement avancent. On aimerait bien qu'il y ait des choses plus, pour ma part, plus radicales. Peut-être un moment, la réflexion sur un quota, pour vraiment, en quelques années, faire un vrai bond, et pas un quota éternel, mais voilà. Bon, il y a sûrement encore plein d'autres choses à mettre en place, et tout ça prend du temps. Mais c'est aussi de l'énergie à côté du projet artistique, en fait, voilà. Et comment on porte ce combat, et à quel moment, à un moment, ça peut prendre aussi l'espace sur le projet créatif en lui-même. C'est un équilibre à trouver.
À travers cet accompagnement, chaque artiste a pu partager son expérience à travers plusieurs échanges, comme tu as dit. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux artistes femmes qui nous écoutent et qui souhaitent aller ou sont déjà dans une carrière artistique?
Je crois vraiment qu'il faut prendre conscience de cette réalité qui est statistique. Hein, et en prendre conscience et donc voilà, se dire que si il va falloir s'armer sûrement plus de patience et de persévérance, c'est une des conséquences de ces chiffres là et alors si on n'a pas forcément envie d'en faire un engagement très fort dans son parcours, je trouve que c'est bien de le dire, de donner ces chiffres, en fait, parce que on est tous dans nos milieux professionnels et on se doute pas parfois de la réalité, en fait, qui est liée à ça. Et simplement d'ouvrir les yeux, voilà, bah regarde, tel festival, on est sur une proportion de 10%, 90%, 10% de femmes, 90% d'hommes. Et on ne s'en rend pas compte, par exemple, dire, voilà, regarde ce festival-là. Ah, ok, on ouvre une réflexion. Voilà, peut-être de semer des petites graines comme ça dans le parcours, et ça donne de la force, et comme ça on se dit, bon, à mon niveau, j'ai fait quelque chose, on va voir comment ça évolue.
Merci beaucoup, Lux Montes, d'avoir répondu à nos questions sur 103 FM. C'était un réel plaisir d'avoir eu cet échange. On rappelle que ton album La Traversée est disponible sur toutes les plateformes de streaming musical.
Oui, sur Bandcamp également.
À bientôt, peut-être dans les studios de Radio Campus Angers.
Merci de m'avoir reçu. Bonne journée.
Dame mas que tu cuerpo, dame más que tu piel, quiero tu alma entera, quiero tu alma entera. Je veux
C'était Lux Montes avec son morceau Tu Alma sur les ondes de Radio Campus Angers.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Avec nous dans les studios pour sa première chronique, Thomas. Salut Thomas. Pour ta première, tu vas nous parler d'une problématique bien de saison, les feux de forêt. D'après une étude menée en 2022, ce sont près de 62 000 hectares qui sont partis en fumée, quasiment deux fois plus qu'en 2021, où on comptait environ 30 000 hectares de forêts disparues dans les flammes. Un phénomène qui ne fait donc que s'accroître, et surtout bien trop rapidement. Mais le souci, Thomas, c'est que la France ne compte pas tant que ça de canadairs pour répondre à cette menace grandissante.
Pour remédier à ce fléau qui touche nos forêts, nous pouvons compter sur une flotte d'appareils pour stopper ces incendies. Canadairs, hélicoptères bombardiers d'eau ou encore petits avions d'âche largeur d'eau, une flotte d'engins aériens qui sont censés pouvoir épauler les pompiers dans leur travail contre ces feux. Problème, avec l'intensification des incendies et leur prolifération, cette flotte est devenue insuffisante, voire manquante. Le gouvernement avait donc annoncé un renforcement des effectifs d'engins pour la saison 2023. 3 hélicoptères bombardiers d'eau, 2 avions Dash et 4 avions Air Tractor viennent grossir la flotte aérienne contre les incendies. De 38 appareils l'été dernier, nous passerons ainsi à 47 pour l'été 2023. Un renforcement qui se fait attendre pour ce qui est des Canadairs, acteurs phares de ces incendies. Il faudra attendre 2027 pour voir 2 nouveaux appareils rejoindre la flotte française. Faute due à une mauvaise anticipation du gouvernement qui doit attendre que les usines canadiennes relancent la production. Un manque, même si la France est considérée comme la plus grande flotte européenne civile pour les Canadairs. Une statistique mise en avant par un bon nombre d'acteurs, mais qu'en est-il réellement ? Cet état des lieux de la flotte française est à relativiser. La nuance est que si la France compte bel et bien 12 Canadairs, les Espagnols, eux, par exemple, en possèdent 19 et les Italiens 16. Mais avec des petites différences. Si effectivement ils ont plus d'appareils, ils ne sont pas comptés de la même manière.
Quelles sont donc ces différences entre les chiffres annoncés localement par les pays et ceux donnés par l'Union européenne ?
Eh bien, en Espagne, par exemple, les Canadairs sont comptés dans les relevés militaires et non civils. Ils sont donc exclus du compte total des chiffres et des sondages européens. Et, pour ce qui est des Italiens, eux, n'hésitent pas à faire appel à des organismes privés pour louer des Canadairs. Des appareils qui ne leur appartiennent pas et qui sont aussi exclus des statistiques européennes. Donc, si effectivement, d'après les chiffres européens, la France est en tête des sondages, en réalité, et on le voit bien avec ces chiffres, elle est bien derrière ses voisins du Sud.
Et les Canadairs, Thomas, eh bien c'est un sujet d'actualité, notamment après la visite d'Emmanuel Macron dans une caserne de pompiers du sud de la France.
Oui, tout à fait. Le vendredi 2 juin, Emmanuel Macron avait rendu visite à la base de Nîmes-Garon pour apaiser les pompiers et les pilotes débordés par une année 2022 très chargée. Emmanuel Macron a annoncé une augmentation des effectifs, du matériel supplémentaire et une hausse des salaires des pompiers. Des annonces qui ravissent donc Benoît Quenopois, représentant des pilotes bombardiers. Je cite « Il semble y avoir un engagement et une prise de conscience du gouvernement sur la problématique des feux de forêt. » Une bonne nouvelle, selon les pompiers et le gouvernement, qui prévoit déjà une meilleure gestion des incendies, même si ceux-ci devraient s'intensifier sur cette saison 2023.
Et on en reparle à l'automne. Merci Thomas pour cette chronique.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Nous allons maintenant nous intéresser à cette émotion que nous connaissons tous, la peur. Cette émotion est fréquemment liée à notre actualité ou à notre environnement quotidien. Dans le contexte des attentats, du Covid, de la guerre en Ukraine, du réchauffement climatique, la peur est un sentiment partagé par beaucoup d'entre nous. Et beaucoup ont du mal à la gérer ou à l'affronter. Océane a pris le micro et est allée demander aux Angevins et aux Angevines comment eux appréhendent leur peur.
Quelle est votre plus grande peur et comment arrivez-vous à la gérer ?
Les insectes, je pense, et j'arrive pas trop à la gérer. Quand j'en vois, j'ai toujours assez peur. Soit j'appelle quelqu'un ou je me débrouille aussi parfois quand même.
Je pense que ma plus grande peur, c'est d'être seule et que les gens que j'aime, ils soient... il me laisse et je ne le gère pas. J'ai beaucoup de mal à la gérer. J'essaye de me dire que c'est une peur, donc c'est quelque chose qui est assez irrationnel. Et essayer de regarder les actes que les gens font, mais parfois quand c'est trop dur, la peur prend le dessus. Et dans ces cas-là, je me laisse envahir.
Je dirais la peur du vide. Et comment je la gère, je m'approche pas trop du vide.
Ça serait une surprise, quelque chose que je m'attends pas, quoi. Je m'attends pas à gérer ça, quoi. Je sais pas, moi, quelqu'un qui m'arrive derrière avec un couteau, quoi, comme ça arrive, quoi. D'un seul coup, je me dis, putain, merde, qu'est-ce que je fais, quoi. Comment je gère, peut-être en criant, puis en riant après si je me suis trompé, quoi.
Donc une de mes peurs, ça va être donc l'anxiété. En vrai, que je considère être une peur qui est plutôt légitime, qui n'est pas une peur en soi... irrationnel, qui est une peur légitime vu les données scientifiques, mais c'est vrai que c'est une peur qui fait qu'on a elle nous pousse à ne pas agir, quoi, et donc c'est un peu embêtant et ça nous fait rester un peu dans le statu quo par rapport à la question du réchauffement climatique, je trouve. Et après, sinon, j'ai une deuxième peur, c'est par rapport à mes études en santé. Donc c'est la peur de ne pas réussir, parce que j'ai déjà redoublé deux fois. Donc la peur de ne pas réussir, ouais, à valider mon année.
So my biggest fear is speaking in French.
Ma plus grande peur, c'est le manque de confiance en moi au quotidien. Donc du coup, je travaille dans la vente, donc ça m'aide d'aller face à des clients qui peuvent me faire un peu plus peur. Et du coup, à chaque fois, je me dis, allez, lance-toi, parce que c'est ton travail. Et du coup, par contre, quand je suis dans les magasins, j'ai un peu plus peur de parler aux gens en général, alors que quand c'est mon travail, j'ai beaucoup moins peur. Donc c'est très paradoxal.
Moi j'ai peur des araignées, mais j'ai hyper peur. Et du coup, en les tuant.
Moi c'est pareil, j'ai super peur des araignées et j'appelle mon père pour qu'il vienne la tuer.
Mon plus grand peur, c'est de faire confiance à n'importe qui, quoi.
Oh bah j'ai eu des peurs, peur de pas réussir quand j'étais plus jeune. Par exemple, pas réussir à mes examens, à mon diplôme, des choses comme ça, quoi. Ne pas réussir. Comment j'ai géré ça en étant positif?
Là, je dirais peut-être vieillir. Et avec la maladie, l'isolement, tout ça. Et petit à petit, perdre ses facultés, tout ça. Ouais, peut-être plus je m'épanouis maintenant, enfin, n'y pensons pas. Ou enfin, peut-être de l'accepter aussi petit à petit, quoi. Petit à petit, de me faire aussi à l'idée que bah, ça va arriver. Et peut-être d'essayer d'y penser en disant, bon, pourvu que ça arrive, mais de manière plus cool.
Un micro-trottoir réalisé dans les rues d'Angers. Merci, Océane. Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Hugo à la technique et à Étienne à la programmation musicale. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau tour en bateau. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Un grand bravo à Gabriel pour sa première fois derrière un micro. Un stage, au bout de 4 jours de stage, déjà réussir ça, c'est formidable. Merci beaucoup Gabriel pour ton animation.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.